plus, ouais, être un peu plus accessible. En tout cas, moi, je trouve un peu plus accessible à certaines personnes. Des termes qui parfois sont difficilement compréhensibles pour tout un chacun. Maintenant, à côté de ça, voilà, il a fait un tour d'horizon de tous les sujets. On peut pas lui reprocher ça. Il peut pas non plus rentrer trop dans les détails parce qu'on va lui dire qu'il est là pour faire pour la promotion de la candidate Renaissance. Donc bon, c'est compliqué aussi pour lui. Hein, sa position, elle est compliquée.
Gamal Abina.
Bah, je ne reprocherai pas à Katia de faire le travail parce qu'effectivement, elle a une synthèse intéressante. Pour le coup, on sent qu'il y a des gens qui bossent, hein, contrairement à d'autres, hein, dans les poches. Mais puis sérieusement, non, j'ai écouté ce discours un peu fleuve. Hein, c'est un petit peu du Castro. La problématique de M. Macron, c'est que c'est quelqu'un qui parle de sujets qui ne touchent pas le grand public. Quand on parle d'intelligence artificielle, il anticipe un mouvement qui n'est pas encore intégré. Ensuite, quand il parle de sécurité européenne, il avait raison au départ. Il faut une Europe sécurisée par elle-même et pas par l'OTAN. Aujourd'hui, il revient sur ce vieux sacerdoce, alors qu'en même temps, il nous explique qu'il y a une peur à l'Est, l'Ukraine, tout le reste. Donc, c'est les vraies problématiques qui sont posées sur les questions financières, pour financer la sécurité. Il parle beaucoup de sécurité aux frontières aussi, le rétablissement de Schengen, mais au sens large et renforcé. Il parle beaucoup de flux migratoires. Donc, j'ai envie de dire simplement, c'est que malheureusement, même si au départ, il n'était pas mauvais, son discours commence à avoir des teintes anxiogènes. On sent bien que c'était mieux avant et que c'est un discours qui pourrait être pris facilement par l'extrême droite.
On a revenu à plusieurs reprises sur cette Europe puissante.
Oui, mais la puissance, encore une fois,
l'extrême
droite. Oui, mais c'est l'extrême droite qui parle comme ça. Faut jamais oublier, je vais être méchant, mais Hitler voulait une Europe puissante sous sa direction. Macron veut l'Europe puissante, non pas sous sa direction, mais dans l'idée de se dire on sera indépendant parce que dès le départ, il avait cette idée de distanciation avec les États-Unis, qu'il a marqué et qu'il n'a pas pu tenir. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec M. Macron, c'est qu'il a un discours qui est déconnecté, ça a été dit par Bruno, des réalités de terrain, malheureusement, qu'il a un discours qui n'est pas audible et qu'il a un discours qui fait la part belle au Front National. Parce que finalement, son discours sécuritaire ou anxiogène, qu'on appelle le déclinisme, c'est un concept qui est connu, c'est un discours qui donne le sentiment que finalement, c'est le FN qui avait raison.
Hassan Benmarek.
Bah, disons que moi, je trouve que c'est un discours important, puisqu'on vient sur des fondamentaux. Et aujourd'hui, depuis la crise, un peu en Ukraine et au Moyen-Orient, en Palestine, je pense qu'il y a beaucoup de verrous qui ont sauté. Donc le fait de dire que l'Europe doit s'armer, se protéger, je pense que c'est un discours très très important. Donc il revient sur des fondamentaux. Et aujourd'hui, on le voit très bien. Vous avez des pays comme la Russie. Alors il a parlé de mettre en place un bouclier antimissile, donc je pense qu'il a raison. L'Europe aujourd'hui, en termes de PIB, c'est, lorsqu'on prend le PIB cumulé des 27 pays, c'est 18 milliards, c'est, excusez-moi, 18 000 milliards de, 18 000 milliards de dollars. Les États-Unis, je crois que c'est 23 000 milliards. Et juste derrière, il y a la Chine. Et donc, Macron pointe des choses en disant que nous, Européens, on a joué le jeu du libre-échange, de l'économie. En fin de compte, les Américains, les Chinois ne jouent pas le jeu.
Voilà.
Donc maintenant, il faut arrêter tout ça. Il faut protéger nos industries, réindustrialiser l'Europe, s'armer, parce que on le voit très bien. Aujourd'hui, que ce soit à Gaza, en Ukraine, plus personne ne respecte le droit international. Alors, donc aujourd'hui, il faut s'armer et c'est lorsqu'on est fort qu'on peut imposer ses vues.
Beaucoup de réactions politiques, beaucoup de réactions évidemment des oppositions, notamment LFI, moi que je retiens, qui cogne beaucoup. Hein. Notamment la tête de liste, c'est Manon Aubry qui dénonce le bilan de Macron au terme de son discours. Arrogance, inégalité, hypocrisie. Elle y va, elle charge le truc. Hein. Elle dit puissance, prospérité, humanisme.
On peut s'attendre à autre chose.
7 ans à détruire nos industries et services. Qu'est-ce que vous dites
Vous ne pouvez pas s'attendre à autre chose de la part de Manon Aubry, évidemment.
Ouais,
mais
en
même temps, ils sont à 5%, donc elle a raison d'attaquer Macron pour essayer de reprendre.
Le RN aussi dénonce.
Oui, pas sûr que ça a été les 5%.
Peut-être 7, allez.
Non, mais ils vont monter, ça c'est une
sorte. Oui, non, je crois que Marek a raison. C'est vrai que Macron a tenté, je pense, de faire peur en même temps un peu. De dire, allez voter, en gros. J'ai ressenti un peu ça, moi.
Oui, bon, c'est vrai qu'il y a des visées électorales, mais je crois que surtout, c'est un discours un peu fondateur. Je veux dire qu'il pose la problématique d'une façon assez sérieuse. Bon, et ce discours s'est tenu où? À la Sorbonne, je crois.
Tu m'inquiètes, là.
En présence des ambassadeurs de tous les pays européens. Non, je ne suis pas macroniste.
Non,
j'assume mes propos lorsque je lorsque je vois qu'une personne dit des choses sensées, voilà, et bien...
Et je confirme, il n'est pas macroniste.
Je dis les choses. Donc, pour moi, ce n'est pas simplement qu'il n'y a pas une posture électorale, simplement. Je crois qu'il y a aujourd'hui le monde, on rentre dans une période de chaos, il y a des verrous qu'on sautait, et aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus incertain. On est dans un monde de plus en plus incertain. De plus en plus, le nombre d'armes, de ventes d'armes n'a jamais été aussi haut.
2400 milliards.
Voilà. Ouais. Et on n'en est qu'au début. On voit qu'il y a des crises, ce serait ce qu'au Maghreb, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, ça se passe pas très bien. Donc tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Donc on est dans un monde de plus en plus incertain. Et le fait que le président de la République dise aujourd'hui, bon, nous avons des points forts et qu'il faut fortifier nos points forts, affecter des ressources, puisqu'il a abordé la question des ressources en disant, voilà, la question des ressources. Et en même temps, il a évoqué un schéma d'organisation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, de créer une structure qui s'occuperait, qui regrouperait tous les responsables liés à l'immigration, au trafic, en tout genre.
Pareil qu'on n'y arrive pas.
Oui, on va devoir. Non, mais le problème, c'est que si on arrive.
Une Europe d'immigration, une Europe de la défense, etc. On en parle depuis, j'entends.
Oui, je sais, mais là, le problème, c'est que la situation a changé. Le contexte a changé.
Oui,
donc le contexte a changé. D'accord. Et bon. comme le contexte a changé aujourd'hui, je pense que chacun va être face à ses responsabilités. Et ceux qui sont dans le pilotage, je dirais, de leur pays respectif, vont se dire, au fond, bon, maintenant les dangers sont quand même importants. Il faut trouver des terrains d'entente et des dénominateurs communs.
Alors, le problématique de Macron, c'est qu'il arrive toujours après la bataille. Il faut être très clair. Quand il veut négocier avec les Russes, la guerre a déjà démarré. Quand il parle d'une Europe des armées, l'idée était bonne au démarrage. Il n'y a pas de problème. Au démarrage de son premier mandat. Aujourd'hui, il est après la bataille. Je veux dire, je suis désolé, on commence par une Europe qui produit de l'armement. Et quel armement? De la haute technologie. Je me rappelle que le Rafale français, c'est un des meilleurs avions au monde. Et l'Allemagne va acheter quoi? 100 milliards aux États-Unis. Donc il y a un problème en termes de gestion. Si on achète des armes à l'extérieur et qu'on dépend donc des équipementiers américains et des pièces de rechange américaines, on n'est pas indépendant. Le système Patriot européen n'existe pas. Il parle de plein de choses et en plus, il a lancé un budget sur 7 ans de 400 milliards. On fait des économies sur le social, mais on tape sur l'armée. Ça n'a aucun sens. Ensuite, la question du retour des risques et des périls, c'est le retour de la guerre froide qui est installé, on le sait déjà, il n'y a pas de problème, c'est évident, mais il faut arrêter d'être dans une Europe anxiogène. La chance qu'on a en Europe, c'est que précisément, à part le conflit ukrainien qui va s'éteindre d'une manière ou d'une autre, l'Europe est stable. C'est ça la question qui se pose. Si l'Europe pense en termes de construction ce qu'elle a fait pendant 70 ans, 80 ans, on peut s'en sortir. Si elle pense en termes de gestion par le conflit, on ne s'en sortira pas. Et tout à l'heure, Bruno a dit très bien, augmentation faramineuse de 6% des dépenses militaires, qui a intérêt à cela? Celui qui vend le plus d'armes, les États-Unis.
Évidemment.
Mais pour répondre à Gamal, je dis tout simplement, Monsieur Macron a mené des actions, donc... on peut avoir une opinion sur ces actions. Est-ce que elles ont été pertinentes, efficaces? Bon, ça, à la rigueur, je peux moi aussi critiquer certaines de ces actions. Mais moi, je me positionne simplement par le discours, ce qui vient d'être tenu. Et donc, je pense que lorsqu'il est dans une logique de prospective et de dire qu'au fond, il faut que l'Europe se construise aujourd'hui, parce que la France, même la France aujourd'hui, ne peut qu'exister dans un espace européen. Les Allemands aussi. Donc, tout le monde doit comprendre aujourd'hui en Europe que plus vite tout le monde seront dans des logiques d'union. Et dans
quoi,
des
une Europe fédérale, tu veux ?
Homogénisée.
Non, mais l'Europe fédérale et l'Europe des nations. Mais je dis qu'aujourd'hui, l'Europe est un ensemble de 27 pays et qu'aujourd'hui, elle a un rôle à jouer au niveau mondial et qu'elle doit se doter d'organisations, de structures pertinentes pour pouvoir peser économiquement, politiquement et militairement.
Je suis totalement d'accord avec ça.
Il est optimiste,
c'est ça, c'est ce qu'il a expliqué. Exactement.
Juste le discours, moi. Je s'il raconte des histoires ou pas, c'est pas mon problème.
C'est pas mon problème.
S'il raconte des histoires et dit le contraire,
non. Mais Bruno Bonnard, il vaut pas une Europe fédérale. Vous répondez quoi?
Il y a une Europe fédérale, il y a une Europe des nations. Bon, je pense que la question identitaire, on peut pas la gommer. Je pense que ça peut être une Europe des nations, mais avec des liens très forts et avec des structures supranationales qui s'occuperaient, je dirais, comme sur des problématiques de police,
du régalien,
voilà.
Défense, immigration, parce que là, c'est un vrai sujet.
On marque une pause. Et on se retrouve tout de suite après. Vous savez quoi? On va parler de l'aide familiale, parce qu'à partir de 2025, il faudra passer de 9 mois en France et non plus de 6. Si vous voulez toujours bénéficier de, vous savez quoi, des allocations familiales, de la prime, du minimum vieillesse, bref, on en parle tout de suite après. Et vous pouvez intervenir au 01 53 48 3000. Vous intervenez et vous venez nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la rediff. 19h-20h. Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh oui, 19h37 avec Katia Burri, avec Gamal Amina, avec Bruno Pomar et enfin avec Hassan Ben Barek. Allez, on va parler de tu sais quoi à partir de 2025. Tenez-vous bien, chers amis auditeurs et auditrices. Oui, faites très attention et soyez prudents puisqu'il faudra passer au moins 9 mois en France et non plus 6 pour une année civile pour en bénéficier des prestations familiales. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire allocation familiale, prime à la naissance, minimum vieillesse, etc., etc. Bref, autant vous dire, c'est un vaste plan de lutte contre la fraude sociale. Tiens. Madame l'élu.
Qui avait été évoquée par Gabriel Attal.
Exact.
Alors qu'il était ministre des comptes publics.
C'est ça.
Exactement. Donc là, il met en application ce qu'il a dit.
On passe de 9 mois à.
9 mois, alors c'est pas spécialement consécutif.
Qu'est-ce que vous dites à tous ces Français qui sont d'origine, je sais pas, algérienne, marocaine, tunisienne, sénégalaise, ivoirienne, qui finissent leur vie là-bas, tout simplement.
On ne fait que ce.
Les pauvres, on les condamne, on les pénalise.
À quel niveau on les pénalise?
Ils sont obligés de rester ici.
Tu veux revenir sur nous?
Oui, ils sont obligés de revenir.
D'être là 9 mois sur le territoire, donc au lieu de 6, 3 mois de plus, ça paraît pas déconnant et c'est surtout pour lutter contre la fraude, parce qu'il y a énormément de fraudes. Étant dans ce milieu-là, je sais à quel point on a quelques fraudes sociales qu'on arrive quand même à stopper, et donc c'est aussi pour éviter ce genre de choses. Après, il y aura toujours des gens très honnêtes.
Vous pensez vraiment que ça lutte, il y a une vraie lutte?
En partie, ça va permettre, il n'y aura pas que ça, bien évidemment. Y a pas
ça
que
pénalise ça. Pas, ça condamne pas ceux qui sont honnêtes, les pauvres qui.
Ah bah de toute façon, quand vous mettez en place.
Oui.
Voilà, exactement. Quand on met en place des restrictions, obligatoirement, ça va pénaliser d'autres personnes.
Tiens, je vais entendre nos auditeurs 01 53 48 3000, s'ils veulent venir commenter cette actualité. Je pense aussi à tous ces Chibani, enfin les retraités qui passent leur temps, évidemment, 6 mois. C'est vrai, Gamal.
Tout à fait.
C'est terrible.
Le problème, c'est qu'on met tout dans le même sac et la problématique qui se pose, c'est que déjà, pour 6 mois, c'était dur pour eux. Parce qu'il faut savoir qu'un billet d'avion, ça coûte très cher, qu'ils ont des prestations très faibles en règle générale et que quand ils y vont, ça sacrifie quasiment en moitié salaire, enfin de prestations. Mais cette façon de vouloir courir après le pognon des pauvres, entre guillemets, parce que c'est pas forcément les riches, pose problème. La fraude doit être condamnée, il n'y a pas à négocier là-dessus, évidemment, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une pression sur les chômeurs, sur les RSistes, sur ceux qui reçoivent leur retraite. Quand même, les retraites, ouais. Les gars sont des vieux monsieur et vieilles dames qui sont fatigués, et ça interroge. Moi, je pense que Bruno Attal fait son travail comme prévu.
C'est
à cause de Bruno Pomar.
Insupportable, ce mec, en plus.
Oui, non, Gabriel Attal,
il
porte le nom d'un ange, je pense que c'est dur. Mais il faut savoir vraiment qu'il est dur dans la mesure
où. Beaucoup considèrent que c'est inadmissible comme.
C'est des méthodes vraiment antisociales, on peut le dire.
Voilà.
Et ça va lever la gauche contre eux parce qu'effectivement.
Beaucoup sont en train de dire que c'est inadmissible.
Ouais, le sentiment, c'est la chasse aux pauvres qu'ils laissent. Et le problème, c'est que M. Attal, il promet.
Je prendrai quelques auditeurs, justement, au 0153-48.
Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'abus? Lorsqu'il y a des lois qui tombent comme ça, je ne pense pas que le gouvernement veuille faire des lois à tout prix pour taper sur les pauvres, etc. Je ne veux pas aller jusque-là, mais. Est-ce qu'il n'y a pas tellement de fraude sociale? Au-delà de ça, il y en a d'autres ailleurs. Il y a une vraie question qui se pose. Si on le fait, c'est qu'il y a, je pense, une étude qui a été faite sérieuse.
Moi, je suis d'accord avec toi sur
une
question.
On ne claque pas des doigts en disant tiens, on va taxer les.
Non, je pense, mais ça, je pense que M. Macron l'a dit, ça coûte un fric monstre.
Oui.
Il a donné la couleur. Je pense que je serais d'accord avec toi s'il y avait un équilibre dans la répression des fraudeurs. C'est-à-dire que le fraudeur au col blanc, il lui est pas inquiété. On ne va pas chercher l'argent qui est caché dans les écaillements. Et cela, c'est des sommes faramineuses. On n'est pas sur des petits détournements. Tout ce qui est blanchiment.
Mais qu'on a récupéré un peu de pognon quand même.
Oui, mais pas grand chose, c'est une goutte d'eau. Tout ce qui est blanchiment, tout ce qui est optimisation excessive, tout ça, c'est pas vraiment bien fait, alors qu'il y a plus de pauvres que de riches, évidemment, donc pour taper sur la majorité que la minorité.
Hassan, Ben Barek.
Pour reprendre un peu ce que disait Gamal, je suis totalement d'accord, c'est que l'ensemble de la fraude, généralement, c'est la fraude aux entreprises, avec les dotations aux amortissements, je veux dire, c'était 80 ou 85%. Je crois qu'il y avait des études du ministère des Finances qui disaient que la fraude, c'est 80 à 85%. Le fait d'entreprises, donc qui font de l'optimisation fiscale et qui montent des dispositifs financiers assez efficaces.
Élaboré, d'ailleurs.
Maintenant sur la mesure qui a été mise en place par M. Gabriel Attal, c'est vrai qu'il y a eu énormément de fraudes.
Ben, c'est un vrai, véritable durcissement.
Il y a eu énormément de fraudes. Alors, on parle des gens âgés. Bon, pour le
fraude
minimum,
sociale. Hein.
Ouais, pour le minimum vieillesse, bon, là, je pense qu'on aurait pu peut-être faire une exception pour les personnes âgées en disant, bon, voilà, on maintient 6 mois et pas 9 mois. C'est-à-dire qu'à partir de 60 ans, 70 ans, voilà.
Vous pouvez
rester 9 mois. Non, mais je pense c'est pour le minimum vieillesse, mais pour tout le reste, il y a eu énormément d'abus. Il y a des gens qui allaient à l'étranger, qui scolarisaient leurs enfants à l'étranger, qui touchaient les allocations familiales.
Oui,
ici. Donc tout ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. Par contre, les gens qui touchent la retraite ne sont pas concernés.
Ils sont pas en vacances, en plus.
Voilà.
En
donc je crois que de ce côté-là, je pense que c'était une mesure qui était plus ou moins nécessaire. Simplement, je mets un bémol sur la durée pour les personnes âgées, quoi. Voilà.
Les auditeurs ont la parole. C'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ah, parce qu'on faut les entendre, les auditeurs. Oui, évidemment, sur ce sujet. Absolument, Katia, je vous redonnerai la parole volontiers. Sofiane d'Argenteuil, tiens, et ensuite après Faouzia. Sofiane, bonsoir, Sofiane.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour cette émission.
Bienvenue, on vous en soutient.
Voilà, je voudrais juste savoir et comprendre, est-ce que les 3 mois font la différence? Les 3 mois qui ont été rajoutés pour vivre en plus en France, est-ce que ça fera une différence? Avant c'était 6 mois, aujourd'hui c'est 9 mois, enfin ça va être 9 mois. Est-ce que ça rajoutera une différence, sachant que je vais être bientôt retraité et qu'avec 800 euros de retraite, est-ce que les 3 mois que je serai obligé de passer chez moi au pays vont me suffire? Voilà. C'est un peu ça.
Bonne
parce
question.
Que partir en retraite.
Katia?
Alors.
Katia,
en toute objectivité, par rapport à ce que je vois, étant donné que je m'occupe de tout ce qui est lutte contre le blanchiment.
Mais les retraités, c'est un peu à part, il me semble.
Oui, c'est à part. Non, mais concernant sa situation, en effet, je ne suis pas convaincue que les 3 mois vont changer grand-chose. Maintenant, il fallait faire aussi une harmonisation. On en revient toujours à cette harmonisation. Le RSA, c'est 9 mois. Donc, il a voulu aussi faire en sorte que tout soit à 9 mois par rapport à ça. Maintenant, lutter de façon générale contre la fraude sociale, je pense qu'il faut mettre des contrôles tout simplement. C'est pas le temps qui va faire la différence.
Qu'est-ce que vous répondez à Sofiane?
Cas, uniquement.
Bah, je dis que oui, 9 mois, ça change beaucoup pour des personnes âgées,
puisque
ils sont 6 mois dans leur pays d'origine, ils sont obligés de revenir 6 mois ici, et puis généralement, bon, ici, tout est cher. Donc je crois que c'est quelque chose de relativement important pour les personnes âgées. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait, savoir s'il n'y aurait pas une exception concernant les personnes âgées. Où là, on devrait rester sur le dispositif ancien, mais par contre, tout le reste, les allocations familiales, tout ce qui est fraude et tout, bon, je pense que là, 9 mois, il y a un moment, il faut être présent plus longtemps en France que dans un pays extérieur.
Voilà, Sofiane.
J'aurais une petite dernière question, si vous me permettez.
Oui.
Quand vous parlez de fraude, est-ce qu'il y a possibilité de nous donner, de nous informer sur le pourcentage de fraudeurs? Parce qu'on parle de fraude en généralité, oui, je l'accepte, il y a toujours des fraudeurs. Mais combien par rapport à tous ces retraités, à toutes ces familles?
On a des chiffres, on n'a pas de chiffres.
On ne parle pas des retraités.
C'est que les estimations.
Non, les retraités, généralement, ne sont pas dans la fraude. Les personnes âgées,
non. C'est pas les retraités.
Je vois quelques dossiers et on n'a pas trop de soucis, on n'a même pas de soucis avec ces personnes.
Les retraités, non,
c'est vrai qu'on aurait pu les exclure, exactement. Ils ont travaillé.
Merci Sofiane. Faouzia de Paris, bonsoir Faouzia.
Oui, bonsoir. Vraiment, je tiens à vous remercier pour ce sujet. Oh, combien je l'ai attendu.
Ah, écoutez, allons-y, parlons-en.
Alors, je vais vous assurer. D'abord, je préfère me présenter par rapport à mon travail. Parce que c'est très intéressant. Après, je vous dirai ce que je pense. D'ailleurs, je vais choquer la terre entière, mais j'assume. Moi, je suis directrice d'une crèche. Vous savez, pour trouver des professionnels, il faut chercher avec une loupe. Alors, ce qui est dingue, vous allez au chômage, vous trouvez 46 000 personnes, ils sont au chômage. Les abus des accidents de travail, les abus des arrêts de maladie. Moi, je vous assure, je parle de moi parce que je gère une crèche. J'ai une amie qui est responsable dans une maison de retraite. J'ai des copines qui sont dans les hôpitaux. Mais tout le monde cherche des professionnels. Oui. Ils sont tous au chômage. Je comprends pas ça.
Personne veut travailler.
Moi, je suis scandalisée. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre. Je suis désolée.
Faut remettre les gens au travail, vous voulez dire?
Oui, non, mais attendez, moi, là, vous vous rendez compte, on est en train de gérer une micro-crèche de 14 berceaux avec, on est 3 professionnels.
Oh, oui.
C'est dur pour nous, c'est dur. Mais pas comme on aime ce qu'on fait. On est des professionnels à part entière. On aime ce qu'on fait. On respecte l'engagement des parents. Les parents, ils travaillent. Il faut qu'on s'occupe de leurs enfants. Mais pour trouver des professionnels, eh ben, c'est impossible. Trouver un médecin, peut-être, mais pas. Après, je ne parle pas de forcément les crèches, les maisons de retraite, les hôpitaux, tout.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre, voilà. Fauzia, quoi, ce que nous dit. Merci Fauzia, c'est rempli de sens de ce qu'elle nous dit, Fauzia, parce que...
Voilà, moi j'en ai marre des gens qui sont au chômage et qui ne foutent rien. Les arrêts de maladie, ils partent à l'étranger. Les accidents de travail, ils partent à l'étranger. Et
c'est ça qu'elle voulait dire, c'est pour ça que je dis, c'est une question qui est bourrée de sens. En gros, elle pointe du doigt ceux qui sont au chômage et qui n'en branlent, pardonnez-moi la tribu. Du terme qui n'en branle pas une.
Ça, c'est vraiment.
C'est ça, voilà. Ce qu'elle dit.
On travaille, on se lève à 5h du matin, on travaille, il y en a qui profitent.
Elle touche du bois, elle trempe la plume dans la plaie. Merci, Fauzia, merci.
Alors, on est parti sur un autre sujet, parce que là, on n'est plus sur les fameux 9 mois de, entre guillemets, de carence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les 9 mois d'attente avant de toucher des allocations.
Ça, c'est le sujet de la semaine dernière, ça, quand il a commencé à faire.
C'est intéressant ce qu'elle a dit, la dame.
Oui, non,
c'est intéressant. Absolument.
Parce que c'est facile à parler comme ça, elle peut se permettre de le dire. Parce que
c'est des contrôles médicaux,
c'est qu'il n'y a pas de formation, les gens ne sont plus formés.
Oui, mais
on en revient toujours au contrôle. Le délai qu'on pourra mettre, ça pourra en effet peut-être éviter certaines fraudes, mais il faut du contrôle. Et comme je dis toujours, nous on peut faire le travail que l'on veut à Tracfin, et j'en parle souvent, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour traiter tous ces cas-là.
200 personnes, je crois, à Tracfin.
400 aujourd'hui, ils ont augmenté les effectifs, mais 400 personnes, qu'est-ce que c'est pour.
En comparaison de la masse de travail.
C'est ça qu'il va falloir surtout renforcer.
Continuez de nous appeler au 01 53 48 3000, où on va parler, vous savez quoi, de cette présidentielle. Un sondage exclusif justement est tombé tout à l'heure pour le Figaro, et il dit quoi? Il dit Le Pen l'emporterait contre Philippe ou Attal. Alors le sondage, je vais essayer d'en parler. On voit bien qu'il y a une percée de Gabriel Attal et de Jordan Bardella. Effondrement de Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Et ce que je retiens, c'est que Marine Le Pen domine. Elle est désormais favorite et elle est même vainqueur. Alors, 2027, est-ce que c'est pas déjà dans la tête de beaucoup de gens? Moi, j'ai l'impression que c'est trop tôt.
Exactement, on est en 2024 et on nous parle de 2027.
Trois ans, c'est beaucoup.
Il s'est passé plein de choses, exactement. Et on voit bien que les sondages évoluent en fonction de l'actualité. Donc, ça peut très bien évoluer du jour au lendemain. Un jour, ça sera Marine Le Pen parce que les sujets vont plutôt dans son sens. Et le lendemain, ça sera plutôt Edouard Philippe. Exactement, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on ne peut pas parler de résultats à la date, à l'instant T.
Ouais. On va finir. Bon, c'est pas ma tasse de thé, évidemment, mais on va finir. Mais on a que ce qu'on mérite, on a que les politiques qu'on mérite. Au bout d'un moment, on a tout essayé, la droite, la gauche. Chacun sera envoyé à la balle. Une fois c'est les uns, une fois c'est les autres. Résultat, on voit le Front National, depuis Jean-Marie Le Pen jusqu'à Marine Le Pen et maintenant Jordan Bardella, arriver à 32% aux élections européennes. Oui, c'est quand même un truc de fou. Ouais. Les autres sont laminés derrière. Il n'y a plus personne qui existe. Mais on a que ce qu'on mérite, voilà.
Tout simplement.
Bon, qu'est-ce que vous entendez par ça?
On a les politiques qu'on mérite, c'est-à-dire.
Demain, Marine Le Pen arrive au pouvoir, on n'aura qu'à s'en prendre à nous-mêmes, c'est tout. Point final. Et les politiques en premier. Les socialistes comme la droite, comme toute la clique qui se file le pouvoir depuis des décennies.
Mmh. Ouais. Écoutez, c'est quand même, je pense que. À l'opposé de ce que tu disais, Adil, je pense que c'est 2007, c'est demain, quoi. C'est 36 mois.
C'est ça.
Donc ça va passer très, très vite.
Long et pas long. Comme dit Katia, il peut se passer plein de choses.
Il peut se passer plein de choses, mais pour l'instant, il y a quand même quelque chose d'assez constant.
Dans un an.
Quelque chose qui est quand même assez constant, c'est que dans toutes les configurations, on voit bien que Marine Le Pen, toutes les configurations d'hommes politiques au centre ou au centre droit ou à gauche, on voit bien que la tendance, c'est qu'à chaque fois, Marine Le Pen remporte. La mise.
Edouard
en tout cas, le duo Bardella-Le Pen est un duo qui fonctionne, est un duo extrêmement efficace. Donc maintenant, la question qui se pose, en particulier, je pense, à l'Élysée et auprès de M. Macron, c'est de savoir comment faire en sorte que en 2007, Marine Le Pen ne gagne pas la présidentielle. C'est le vrai problème. Qu'est-ce qu'il va falloir sortir de pertinent pour faire barrage.
Plus rien.
Non, plus rien, je pense pas.
En tout cas,
moi, je pense qu'il y a peut-être une proposition. Moi, je pense qu'il faudrait se tourner dans le passé. Moi, je me rappelle, peut-être certains auditeurs n'étaient pas encore nés, mais en 1985, par exemple, lorsqu'il y avait François Mitterrand, qui était battu par une alliance entre le RPR et l'UDF, avait introduit la proportionnelle. Il avait introduit la proportionnelle en 1985 avec le 49-3. Et lorsqu'il a introduit la proportionnelle avec le 49-3, il y a eu une trentaine à l'époque de députés du Front National, donc l'ancêtre du Rassemblement National, qui étaient rentrés à l'Assemblée nationale. D'accord. Et à l'époque, l'UDF et le RPR, qui étaient
gagnants. Il a cassé la droite avec ça.
Il avait cassé. Il avait réussi à casser. Attends, mais je voudrais aller plus loin.
On est en dehors de l'antenne.
Parce que là, c'est
en dehors de l'antenne.
Mais je voulais juste te dire que s'il y a une chose importante à lancer aujourd'hui, ce serait peut-être le vote obligatoire. Ouais. Je pense que Macron devrait lancer le vote obligatoire.
C'est
pourquoi
vrai, c'est pas faux.
Parce que ça ferait qu'il y aurait 13 millions.
Alors simplement pour dire une chose, c'est que c'est une bonne idée le vote obligatoire. Simplement pour dire que effectivement, dans les sondages, on met toujours Le Pen devant. Que l'Europe s'extrême droitise, mais il y a un système qui fonctionne très bien, où ils ont été capables de nous pondre un Macron qui sortait de nulle part. Ils nous parlent d'un tel qui n'est pas du tout au rendez-vous, ils nous parlent de Bardella qui n'est pas au rendez-vous, ils ne sont pas forts, c'est pas les vrais politiques, c'est la vieille branche, la vieille garde qui va l'emporter. Je pense qu'ils vont nous sortir un homme de droite qui aura les idées un petit peu extrême droite, mais qui va l'emporter.
On ne pourra pas gagner.
Le problème, c'est que je ne crois pas à la victoire d'une femme, Marine Le Pen, parce que c'est une femme en France, on ne votera jamais pour une femme à la tête de l'État.
Moi, je pense qu'il ne pourra pas gagner et qu'il va falloir imposer le vote obligatoire pour augmenter le corps électoral.
Merci.
Parce que tous les gens dans les banlieues, à droite, à gauche, qui ne votent pas, vont devoir voter.
C'est pas con.
Là, tu fais monter le LFI. Hein,
ouais.
Non, je
Katia Burier, merci.
Je fais barrage au
Merci, Gamal Abidar.
Ah, oui.
Merci, Bruno Pomard.
Merci.
Merci, Hassan Benbarek. Merci à la réalisation. C'était Solal.
Merci, Solal. Merci.
Il est là, 21h. Le débat continue ou quoi? 21h, c'est Vanessa. Demain, c'est Kim. À demain avec autant de plaisir. Mais si d'ici là, on lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.fr. Beurre FM, la rediff. Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est en Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi soir, jeudi 25 avril 2024. On est ensemble à la suite des informés d'Adil Farkan qu'on pourra retrouver dès demain à partir de 19h pétante avec toute son équipe. Ce soir, on va parler de quoi dans cette émission? On va parler, de Monaco, dauphin du Paris Saint-Germain dans cette fameuse Ligue des Talents. Eh oui, des beau dauphin, tel que le Grand Bleu est. Le Grand Bleu, c'était combien? 1989. C'est Solal qui nageait si bien du côté de la Croisette à Cannes. Et oui, on pourra retrouver peut-être monsieur Francis Ford Coppola. Voilà. Hein, qui est, bien sûr, hein, la culture G de Juba, elle est bien là. Hein, toujours rayonnante et pintillante, comme on dit. Juba qui m'accompagnera tout au long de cette émission avec l'équipe de Time Sport. On parlera aussi de l'influence dans le sport. Et pourquoi donc? On accueillera Najette qui nous parlera aussi, des Miss France. On aura aussi Sonia Bendif, experte en marketing d'influence, qui sera avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Sans plus tarder, on va présenter la magnifique équipe qui m'accompagne, mais on s'attardera aussi sur l'Olympique de Marseille. Et bien sûr, l'OM, des points oubliés en cours de route. Le débat du jour, on le rappelle, ce Marseille de Gassé, trop faible peut-être pour cette Ligue 1 Uber Eats. Le 0153483000, rien de plus simple pour réagir sur l'antenne. Sur la réalisation, se fera un plaisir, mesdames et messieurs, de vous faire passer sur l'antenne de votre radio préférée. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport. Les pourparlers.
Tranquillement, l'invité s'est bel et bien installé. On a Mamadou Lamine Mané à qui nous passons le bonsoir, tout comme Boula. Big up du côté de Aubert. Il se reconnaîtra notre Boula national. Jouba, tranquille, tu vas prendre ton temps. Tu as pris un café, tu as pris un petit McLeod et Zlebia. Alors tout roule. On a aussi, un second Steven Spielberg. On avait Carrie pour m'accompagner ce soir. On a aussi Annan. Ça fait plaisir, Annan, de toucher un peu les smartphones comme ça. Ben voilà. Bonsoir, Annan. Comment ça va? Ça te va si bien?
toujours dédicace à tous les chauffeurs et livreurs.
Voilà.
Dans le transport, bien entendu. Et heureux d'être là.
Content, ah ben nous aussi, voilà. Anan. Les jeudis soirs, des fois c'est le mercredi, mais le jeudi soir on retrouve Anan sur l'antenne de Beurre FM. Lui nous vient tout droit du centre Ourédou, le camp des loges, on sait même plus comment l'appeler, avec son magnifique site internet qui lui a valu beaucoup, ça lui a pris beaucoup de temps. C'est Mickaël, fin connaisseur, percutant dans ses propos. Mickaël, il est avec nous ce soir. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
On tient à rappeler le site internet, il faut dire, il faut balancer tout ça.
Allezparis.fr, on travaille dessus depuis plusieurs mois maintenant. Ça commence à monter, donc merci pour la petite dédicace, Bilal. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Ça fait un moment, c'est vrai. Donc voilà, on va passer une bonne émission et un très beau plateau. Donc très heureux.
Il a fait la coupe à la Fernando Torres pour les auditeurs.
J'adore ce joueur.
Incroyable.
Et toi, la coupe, elle est à quoi?
Ah moi, mon coiffeur a eu des problèmes. Il est parti à la guerre. En Ukraine.
Je crois pas qu'il en ait.
C'est pour ça que je mets la petite casquette. Non, mais en tout cas, c'est Juba. Je me présente. Voilà, vous me connaissez.
Juba, le roi Juba.
Je suis très content d'être là. Il y a une bonne ambiance. Il y a beaucoup de monde dans ce studio. Donc c'est cool. Et on va essayer de bien parler de foot ce soir. Pas que de foot. Hier, il y avait Macron qui jouait au foot ce matin pour s'en prendre aux étudiants. Par contre, là, il a envoyé les CRS.
Il
choisit ses sports, Macron.
Il n'a pas envoyé les CRS. Juba, ça c'est propos.
Juste pour la petite info. Ça s'est passé un plaisir, j'habite juste à côté et franchement il n'y avait pas grand monde.
Pour le voir jouer.
Exactement, il n'y avait pas. Non, pas pour le voir jouer.
C'est pas si c'était Karim.
Karim
il n'était pas. Il était avec nous hier.
Je parle de la Sorbonne
Karim,
ce matin.
Bonsoir, comment ça va Karim?
Bonsoir tout le monde, comment ça va?
Ça va très très bien.
Très heureux, hein. Bah oui, on est dans la meilleure émission, je suis heureux moi.
Ouais.
La meilleure émission de la télé, de la radio partout. Hein, parce que ce que j'entends des fois, incroyable.
Incroyable mais vrai.
Suivez-moi.
Ah ben voilà, on suit Karim. C'est ça, Karim, seul contre tous, quelquefois. Hein.
J'ai une petite question.
Vas-y.
En quelle année il y a eu les premières femmes qui ont participé aux Jeux Olympiques?
C'est une bonne question.
69.
1912.
Je pensais que c'était avant, moi.
Oui, de Coubertin.
Pensais que c'était avant.
Je crois que même Mamadou avait fait un exposé dans le temps. En étude.
Je sais que c'était avant, mais bon.
Ouais. Le français, monsieur Coubertin, qui les avait remodelés, hein, si je peux me permettre, hein. C'est JO d'été. Oui, c'est ça. 1896.
Que d'histoire.
C'est ça. Mamadou, Lamine Mané, on est ensemble jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa. Allez, un petit clin d'œil en passant par la réalisation avec Solal. Bonsoir, Solal.
Bonsoir à tutti. Quel plaisir d'être avec Mamad Conseil. Franchement, il y a des conseils, on en aura beaucoup ce soir, que ce soit sur l'influence et l'expertise magnifique d'une invitée qu'on aura tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Chers amis, vous êtes bel et bien sur Time Sport, l'OM, on va en parler beaucoup, l'OM, l'OL, le Paris Saint-Germain, mais surtout Monaco et son rocher. C'est alors là, ils sont bien placés sur leur rocher, sauter à tout moment sur ce PSG-là qui a seulement quelques points du titre de cette Ligue 1 si prestigieuse. On en reparlera forcément, Bilal, mais Monaco.
Monaco face au Lillois hier soir, c'est 1-0 des Monégasques face à ces Lillois. Youssouf Fofana à la 61e minute. On rappelle le classement, hein, le trio, c'est le Paris Saint-Germain 69 points, Monaco à 58 points et Brest, et oui, le stade de Brest avec les hommes de roi à 58 points. Marseille est loin derrière à la 8e place avec un match justement qui avait ce match en retard, mais elle avait bien joué. Et aussi on a les Lensois à la 6e, la 5e place c'est les Aiglons de Nice, à la 4e c'est les Lillois. Mickaël, Monaco dans le viseur, si on peut le dire comme ça, mais bon, assez loin des Parisiens, Paris loin devant toujours.
Oui, Paris loin devant avec 11 points d'avance qui pourrait valider son titre de champion de France ce week-end contre le Havre. Monaco, fidèle à lui-même, il y a eu quelques faux pas cette saison à domicile, c'est une équipe qui est très performante à l'extérieur. Et hier c'était un match important parce que il fallait qu'ils confortent leur place sur le podium. De l'autre côté, Lille qui fait une très bonne saison avec Paulo Fonseca essaye aussi d'accrocher la Ligue des Champions. Et c'était vraiment un vrai duel, c'était vraiment une vraie opposition. Et Monaco s'en est sorti 1-0 grâce à son homme fort depuis plusieurs semaines, Fofana exactement. Une victoire aussi qui permet aux Brestois de encore rêver à la Ligue des Champions. Mais surtout,
moi, vu le match que j'ai vu hier, et c'est vrai que ça a été un virage justement par rapport à ce championnat-là. Rappelons-le, il reste que 4 matchs justement avant la fin de ce championnat.
Après l'Euro,
pour moi, ça a été un virage
pour la deuxième place. Et effectivement, Monaco a su tirer son épingle du jeu et a conforté cette deuxième place. Je pense pour aller les chercher, ça va être très compliqué.
Mais c'est surtout qu'on a vu deux très belles équipes.
Hormis le PSG, pour moi, c'était les deux plus grosses équipes justement de championnat là. Et on voit Brest parallèlement qui a de plus en plus de difficultés. Je sais même pas s'ils vont arriver.
Ils vont avoir du mal à se remettre de la défaite contre l'Olympique.
Et même la quatrième place, pour eux, moi, je crains qu'ils n'accrochent pas.
Ça va être compliqué.
Je pense que Monaco, et comme l'a dit Mickaël, enfin, justement, fidèle à lui-même, c'est un club qui est vraiment performant, qui a su montrer de très belles choses. Et il le fait très bien de souligner. Le 12e homme est presque au sens propre, j'ai envie de dire, à Louis II, parce qu'on le sait, ce stade est complètement vide à chaque fois, il joue presque devant personne, ben il ne fait pas son rôle, c'est-à-dire qu'à domicile il laisse échapper des points qui auraient peut-être pu les mettre bien plus à l'aise. Monaco en tout cas qui fait le travail grâce à Fofana notamment.
Mais oui, ça l'a dit,
attention, l'équipe est très jeune.
Non mais qu'elle soit jeune, remodulée. C'est ça, été la marque de fabrique de Monaco. Quand ils ont eu Bernardo Silva, Le Mar, quand ils avaient tous ces mecs-là, ils sont partis sur un nouveau cycle.
En début d'année, ils ont changé beaucoup de joueurs, ils ont encore pas mal de joueurs, un nouvel entraîneur qui connaît sa première année en Ligue 1 cette année.
Quand ils ont été cherchés Falcao à l'époque, ils avaient des joueurs confirmés, Ramos Rodriguez, etc., des joueurs confirmés, là, nouvel entraîneur avec des joueurs jeunes, il est jeune en plus, le fait que Monaco fait un bon parcours, effectivement,
c'est qu'ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe.
Exactement.
C'est ça qui différencie avec les autres équipes.
Exactement.
C'est qu'ils ont une fraîcheur que les autres n'ont pas. Mais après, c'est dans leur ADN, Monaco a l'habitude de finir fort leur championnat. Hormis l'année dernière, chaque année, Monaco, arrivé justement mars-avril, etc., c'est plein de patates vers le haut du classement. Mais encore une fois, même en termes de niveau, il y avait un gap au-dessus entre Monaco et Lille par rapport aux autres équipes. Là, en ce moment, Paris, Monaco et Lille, c'est la locomotive de la Ligue 1.
Pourquoi ils sont pas troisième, Lille, si c'est la locomotive?
Enfin, parce que Brest fait aussi une excellente saison.
Exceptionnelle.
En Coupe d'Europe, Lille. N'oublie pas ça.
Ouais, mais ils sont encore en liste, là, Lille.
Non, Lille, ils sont fait sortir.
Oui, mais ils viennent de sortir. Ils étaient en liste contre Aston Villa.
Ils ont laissé pas mal de plumes.
Et ils étaient en liste jusqu'à très très peu. Je me dis, ils sont encore en liste parce qu'il n'y a pas eu de match après cette défaite face à Aston Villa et cette sortie. Mais je veux dire, Lille, si tu dis que c'est une locomotive, ils auraient dû largement asseoir ce truc-là. Ce que je comprends pas dans votre discours, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment trois qui sortent du lot. Non, la Ligue 1, c'est un club, c'est le PSG qui sort du lot.
Monaco, c'est une principauté, c'est pas en France, mais ça reste quand même en France, on va les mettre en France, on sait que c'est une principauté, ça reste un club historique, bien sûr, bien évidemment. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que depuis longtemps, depuis des années, les jeunes de Monaco sont toujours en bonne phase dans les coupes Gambardella. On les retrouve souvent, les jeunes de l'AS Monaco.
C'est un repère, c'est comment dire, c'est une marque, c'est pas parce que le stade, on va dire, il est, parce que il est, parce que justement, j'allais dire, il y a des supporters à Monaco.
Moi, quand je suis allé à Nice, j'ai croisé beaucoup de supporters de Monaco. Il y a beaucoup de supporters de Monaco de la France. Monaco n'est pas connu.
Il y a des Marseillais qui vont voir des matchs de Monaco aussi.
Bien sûr.
Moi, je suis supporter de Monaco. Moi, je le dis. Je suis supporter de Monaco. Encore une fois, allez, reviens à Karim. Juste ça, et après, je ferme la parenthèse. Effectivement, Monaco, contrairement aux autres équipes, ne fait pas rentrer ses jeunes directement à l'image d'un Lyon avec
Mbappé.
Oui, mais il est fort de manière progressive. Akliouch, etc. Ils sont rentrés dans l'équipe de manière progressive.
Bien sûr, il y a une identité de Monaco.
Il est le temps de grandir. Il n'est pas dans la fosse au Lyon en disant voilà.
C'est pas qu'une boisson.
C'est très stratégique,
Monaco.
Exactement.
Non, mais vraiment, non, c'est pas.
Monaco a toujours eu cette identité. C'est cool, toi. C'est bon, le week-end est arrivé.
Alors, ne buvez pas d'alcool.
Je trouve Jubin un peu dire avec le LOSC. Je trouve que Paulo Fonseca fait un fait un très très bon boulot. Et moi, je suis assez d'accord avec Adnan. Je pense vraiment que les, en tout cas pour la Ligue 1, pour la Ligue des Champions, c'est horrible de dire ça pour le Stade Brestois. Mais entre parenthèses, d'ailleurs, le stade de, le stade du Stade Brestois, alors, Brestois stade ne sera pas homologué pour la ouais. Ligue des Champions. Ça, mais moi, je pense en tout cas pour le football français, je pense que les trois équipes les plus armées pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine sont le PSG, Monaco et Lille. Et je le dis pas forcément que parce que c'est des équipes qui pratiquent un football intéressant et qui ont des bons joueurs, mais je pense que hormis le Paris Saint-Germain, Lille et Monaco, ce sont les deux équipes qui ont les projets les plus cohérents depuis maintenant depuis plusieurs années. Je trouve vraiment ce qui se passe à Lille, c'est vraiment très intéressant. L'équipe progresse continuellement. Mais il sort en Europa League contre une équipe qui s'appelle Aston Villa, qui fait une saison de fou en première ligue avec Unai Emery qui fait un travail aussi assez exceptionnel.
Bien sûr.
Et ils se font sortir aussi dans des conditions un peu particulières, au tir au but et toujours avec des entre guillemets des petits litiges en termes d'arbitrage, que ce soit contre Aston Villa ou que ce soit au tour précédent. Les Lillois ils sont pas non plus gâtés à ce niveau-là. Mais moi en tout cas, je tiens à saluer le travail de Paulo Fonseca.
Oui.
Et un coach d'ailleurs que parce qu'on va parler de l'OM tout à l'heure.
Et d'Adil,
un coach que l'Olympique de Marseille aurait bien aimé avoir à sa tête.
J'allais plus loin sur ces propos et je veux juste. T'as tout à fait raison, mais il y a aussi le travail d'Olivier Le Temps qui pour moi est le meilleur président de Ligue 1.
Actuellement, il est
le meilleur président. D'accord. Rappelez-vous dans lequel état il a pris justement cette équipe de Lille, dans les difficultés financières justement, et qu'il a réussi justement à remodeler non seulement une équipe, mais aussi
sponsoring aussi New Balance.
Exactement.
C'est incroyable.
Le sponsoring et la situation financière.
Alors,
moi ce que je voulais rajouter, c'est que l'AS Monaco, pour revenir, on parle de voilà, c'est la qualité de la Ligue 1 avec l'AS Monaco, le LOSC, etc. Brest aussi. Qu'est-ce qu'ils prennent Brest entre parenthèses cette année, alors qu'ils font une saison incroyable, et t'as l'impression qu'ils sont décriés dans partout.
Non, personne décrit Brest.
Non, pas ici. Hein. Je parlais dans.
Vas-y en général.
Dans, voilà. Et moi ce que je veux dire, c'est que Monaco, c'est une terre aussi de sport. Et ça va être le prochain thème. On va en parler dans cette émission.
Ouais.
C'était formidable émission. Et il y a un groupe comme Altis.
Oui.
C'est RMC Sport.
Ouais.
C'est RMC Altis.
Le confrère de RMC.
Et avant c'était Radio Monte Carlo.
Ouais. Ouais. C'était là-bas.
Voilà, mais pour dire que c'est une place tournante, Monaco, c'est une plaque tournante. C'est un grand. Les médias et plein d'autres choses, quoi.
Alors, on va rester ensemble. Merci Karim. Merci aussi. Oui, Jouba, on va rapidement, Jouba.
Oui, juste la filière sport ne va pas être achetée par CMA, CGM, c'est gardé par Altis apparemment.
Ouais,
ça, c'est les dernières infos qu'on a.
Ouais, on va voir. Hein. Ça va prendre avec des pincettes. Ouais. En tout cas, vous restez avec nous. On va revenir avec nos deux invités de ce soir. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beur FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beur FM.
Et de retour sur l'antenne de Beur FM en ce jeudi soir, toujours avec le grand sourire de Jouba, 20h et 18 minutes, chers auditrices et auditeurs de Beur FM. On est avec qui ? On est avec Adnan, sans oublier Karim. Toujours pertinent, Karim. Hein, il se laisse pas faire avec Mika qui nous a fait son grand retour. On l'apercevra, Mika, sur l'antenne de Beur FM concernant les émissions spéciales. On espère aussi avec Nasser qui te passe le bonjour, Mika, qui est à l'écoute ce soir. Hein, qui ne manque tant. Voilà, on parlera aussi de l'euro et toutes ces nations concernant l'euro 2024 qui sera du côté de l'Allemagne. Allez, place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The special one.
Eh oui, ce soir on est en compagnie de Sonia Bendif, justement pour la première fois sur cette antenne, experte en marketing d'influence et aussi de la gestion des réseaux sociaux. Voilà, elle est, ça fait 6 ans qu'elle est à la tête d'une agence de recrutement aussi. Mais on va parler avec Sonia justement de cette influence et aussi de tout ce qui gravite autour. Bonsoir Sonia, comment ça va ?
Ben bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Oui, pour la première fois.
D'avoir accepté. Voilà, tranquillement. C'est super sympa d'avoir accepté notre invitation, Sonia. Hein, les clés du succès du marketing d'influence, c'est quoi justement aujourd'hui ? Parce qu'on voit à l'approche de Paris 2024 des championnes, des champions aussi s'investir dans le market, mais pas que, un peu sur les réseaux sociaux, de promouvoir des choses. Oui, des influenceurs, mais pas que aussi. Il y a une nouvelle donne qui s'est opérée de nos jours. Ça fait aller à peu près une dizaine d'années. Je parle pas des influenceurs hein, sur la télé-réalité, hein, mais surtout nos champions dans le sport.
Et peut-être aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'on fait appel pour un peu redorer et même essayer de donner voilà, un petit côté punchy, voire valoriser tout cela, quoi, le travail.
C'est ça. Alors, juste pour faire la petite présentation, donc moi, je suis la CEO de la startup qui s'appelle Use My Feed. Donc, c'est une agence de marketing d'influence et une application mobile aussi qui permet aux personnes, aux marques d'être complètement autonomes sur la recherche d'influenceurs et notamment donc influenceurs, sportifs, artistes, notamment des sportifs que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Donc oui, effectivement, à l'approche des Jeux Olympiques, il est intéressant de faire appel à des influenceurs sportifs pour incarner vos marques et pour toucher un public plus large, donc le public passionné par les Jeux Olympiques, le public passionné par le sport, mais aussi la génération qui est connectée. Donc il y a pas mal de marques qui font appel à des sportifs, donc dans tous les secteurs d'activité. Vous avez parlé de tous les secteurs sportifs, donc vous avez parlé beaucoup de football,
ouais.
Mais il y a aussi la nouvelle trend là qui sort au niveau de la boxe. On peut retrouver aussi des gymnastes pour promouvoir sa marque,
des escrimeuses, des escrimeurs.
Donc nous, en tous les cas, ce qu'on a voulu faire, donc on peut faire appel à des influenceurs sportifs pour incarner la marque, pour du sponsoring, pour mettre en avant les accessoires, les produits, les services, etc. Ça peut être de l'associatif, mais ça peut être aussi des marques. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, qu'ont les marques aujourd'hui, c'est comment je connecte avec les sportifs qui vont incarner nos valeurs et qui vont porter le message à notre cible. Voilà. Donc comment je connecte avec eux, où les trouver, comment entrer en contact, comment négocier des contrats. Ça, c'est la grande difficulté des marques et c'est pour ça que j'ai lancé l'application Use My Feed qui est aujourd'hui en ligne sur Apple Store et Google Play. Vous pouvez vous connecter très facilement.
Ouais.
Voilà, et vous pouvez avec une centaine de filtres retrouver des influenceurs. Vous faites je sais pas moi, de la chasse, vous allez retrouver des influenceurs
carrément qui sont, sur ça.
Bah oui, des sportifs autour de ces secteurs.
Les sportifs, je veux vraiment rien à voir, hein. Ça c'est plutôt perso. Et c'est par exemple sur le domaine de la politique, ça va plaire à Jouba, mais sérieusement, est-ce qu'on
peut retrouver des influenceurs dans le droit, dans la politique, dans les ressources humaines. On peut retrouver des influenceurs, il y a pas que la beauté, même si on en retrouve bien entendu, mais aujourd'hui, en plus, il y a l'influence B2B qui arrive en force aussi.
Oui.
Donc, on fait appel à des experts donc dans divers domaines comme la politique, comme le droit, comme le commerce. Et donc là, on va faire appel du coup à des influenceurs très, très ciblés pour promouvoir tel et tel produit, un logiciel, un service, voilà.
À la réaction, peut-être avec Jouba, on va l'écouter.
On pour rassurer tout le monde, les marques, les consommateurs, etc. On a eu l'épisode avec les influx voleurs qui a mis en lumière Booba. Il y a une surveillance accrue de la DGCCRF pour tout ce qui est... Comment on peut garantir à tout le monde que c'est des marques fiables? Quel rôle vous jouez? Comment on a cette éthique qui s'inscrit dans votre démarche mercantile et comment on gère tout ça, Sonia?
Alors, nous, que ce soit en agence ou via l'application, on a un système de modération qui nous permet donc de valider et de garantir aux influenceurs que ce qu'ils vont promouvoir, ce sont des entreprises qui ont bien un siret actif, qui sont en accord avec la loi de la nouvelle loi qui est sortie auprès de l'influence. Donc ça, on fait un système de modération au départ, on vérifie ensuite. Au niveau des influenceurs, on parle beaucoup d'influence voleurs, influenceurs
télé-réalité.
Donc nous, on modère aussi les influenceurs avec lesquels on travaille, que ce soit en agence ou sur la plateforme. Donc c'est un peu la crainte aujourd'hui des marques quand je les rencontre. L'un des premiers écueils, c'est oui, alors j'ai peur ça décrédibilise l'image de marque de ma marque. Faut vite. Alors déjà, il y a très peu d'influenceurs qui ont été catégorisés dans ce rang-là.
Ouais.
Mais il y a aussi le fait que demain, si je prends un influenceur et que je me trompe et qu'il correspond pas complètement aux valeurs de ma marque, enfin, je veux dire, il va parler à 20 000 personnes, il va en toucher peut-être 2 ou 3 000, il va rien se passer, les gars.
Ouais.
Et si vraiment, vraiment, vous êtes trompé et cet influenceur-là décrédibilise votre marque, bon, vous risquez de faire un bad buzz, vous risquez de, voilà. Mais derrière, on pourra toujours rattraper.
Ouais.
En tous les cas, nous, sur la plateforme, on joue un rôle de modérateur. Et sur la plateforme, encore une fois,
Vous avez une campagne qui est déposée, mais vous avez aussi un contrat entre les deux parties, donc un contrat qui est en accord avec la nouvelle loi influence. Oui. L'influenceur, du coup, ou le créateur de contenu va faire son job, ou l'artiste, l'athlète, et ensuite il y a les factures qui sont émises. Et en cas de litige, il y a un support qui est présent et qui prend la main pour régulariser tout ça.
Oui, j'imagine qu'il y a avec un critère aussi. Justement avec des cahiers des charges, justement, on doit répondre à certains critères. Moi, le fait est que ça soit, comme vous l'avez dit, en B2B ou sportivement, c'est beaucoup plus cadré, on a moins de risques. Oui. Après, moi, j'avais une question aussi, c'est comment on peut éviter, justement, enfin, comment se gère, par exemple, demain, moi, j'ai besoin, justement, de promouvoir ma marque, je prends Kenji Girac, par exemple.
Ah, Kenji, vas-y.
Mais le lendemain,
je ne pas qu'il promulgue une marque d'armes.
Il y a cette polémique-là. Derrière, est-ce qu'il y a des moyens, justement, de faire machine arrière ou d'être remboursé ou des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment la maîtrise, mais qui peut derrière influencer justement l'image de notre marque?
Bah après là, quand vous prenez Kenji Girac, c'est des contrats qui sont costauds, qu'on fait sur une application mobile, c'est du sponsoring. Donc derrière, il y a des assurances, un peu comme quand un artiste book une salle et que d'un coup, il fait une dépression, il ne peut pas s'y rendre. Enfin, je veux dire, il y a des assurances derrière. Et voilà. Après, on n'est pas à l'abri forcément qu'un influenceur propage un message négatif.
C'est ça, l'idée.
Mais généralement, quand on active un influenceur, alors il y a plusieurs catégories d'influenceurs sur l'application, vous retrouvez plutôt des micro et des nano influenceurs parce que ça géolocalise autour de votre point de vente. C'est-à-dire qu'ici, c'est sur Beurre FM, si vous voulez avoir Beurre Life et qu'ils sont pas loin, vous allez voir sur l'application Beurre Life, t'es pas loin, vas-y, viens. Et ils viennent sur cette. Donc nous, on géolocalise. Et on est sur des micro et nano influenceurs. Après, sur les influenceurs un peu plus importants, généralement, c'est des contrats qu'on fait en agence.
Ouais. D'accord. Tout simplement. Karim,
allez. Oui, Sonia.
On va continuer l'interview avec Sonia.
Enquêté sur vous, Sonia.
Ouais, l'enquête, toujours.
C'est les huissiers, là. Tout de suite. Non, moi j'avais une question, honnêtement. Il y a une école, il y a un diplôme pour être influenceur. Parce que là on parle d'influenceur, mais tout le monde peut être influenceur. Moi je suis un gros influenceur.
Vous pouvez le recruter.
Donc tu vas télécharger l'application.
Voilà,
tu vas pouvoir t'inscrire. Alors, il y a une nouvelle vague d'influence qui arrive. Ça change forcément, ça évolue. Là, on a les influenceurs B2B. Effectivement, moi là, je vois l'influence vraiment depuis le départ, vraiment comme la chanson là, passe le message à ton voisin. Ouais. On sort un peu moins, on est tous sur les réseaux, on est tous connectés, on sort un peu moins au café pour dire j'ai acheté la nouvelle. Et donc finalement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment passe le message à ton voisin. Donc oui, effectivement, tout à l'heure là je suis sur un festival où je délègue une trentaine d'influenceurs, et sur ce festival j'ai eu les résultats tout à l'heure. Ouais. Celle qui avait le moins de followers a fait le plus de ventes. Donc le client m'appelle.
Ça veut rien dire.
Donc ça veut pas dire. Vraiment, ce qui va compter, c'est l'engagement et l'expertise que vous allez avoir. Et plus vous allez être niché, plus vous allez avoir une petite communauté, plus elle est engagée. Et après, c'est l'authenticité que vous apportez et le rapprochement avec votre communauté. Donc oui, aujourd'hui, tout le monde peut être influenceur. Par contre, nous, pour travailler avec nous, il y a des critères à l'entrée, que ce soit en agence ou que ce soit sur l'application.
Et justement, est-ce que tu travailles, je peux te tutoyer, est-ce que tu travailles avec des entreprises comme Snap, Instagram, YouTube, Twitch, toutes les grandes applis de réseaux sociaux, quoi.
Sur l'application, vous retrouvez Instagram, Twitch, YouTube, etc. Et cette année, j'ai eu la chance justement d'être invitée au YouTube Festival. C'était juste énorme. À la Snap School. Donc là, on rencontre vraiment les créateurs et l'équipe de Snapchat. Pour Meta, c'est plus compliqué. C'est très fermé, donc pas qu'à moi.
Toujours comme ça. TikTok, Facebook, parce que par rapport à
TikTok, moi, mon réseau social, après chacun a ses. Moi, c'est Snap et Insta, mais TikTok, ils ont tout compris, puisqu'ils sont très proches de nous, des agents, très proches des personnes, et ils sont partout.
Ils sont partout, applications chinoises, fermeture
TikTok.
Ah, bah ouais, ça va, c'est beau. Là aussi, il y a la guerre. C'est la géopole, la géostratégie, mais au sein même des GAFA, des applications aussi. Ça joue beaucoup. Par exemple, Jouba, il est que sur TikTok. On va savoir
non,
pourquoi.
Non, je suis j'ai jamais ouvert TikTok
ou X mais aussi.
On m'a toujours dit TikTok. C'est Keisha qui disait TikTok on the clock. Donc ils sont à l'heure, quoi.
Allez, Solane, une petite réaction avec Sonia. On doit retrouver Najette.
Force de constater que c'est magnifique cette proposition-là, que ce soit aux influenceurs et même ceux qui veulent débuter, parce qu'on pense directement à des influenceurs aguerris qui ont déjà leur téléphone à la main, mais ça s'adresse à vraiment tout le monde, et ça que j'apprécie aussi. Moi j'avais une petite question.
Alors,
peut-être le rouleau de service, mais est-ce qu'il y a de la prévention aussi? C'est important. Les réseaux sociaux sont une forte forme d'addiction aussi, tout comme d'autres addictions qu'on proscrit sur les médias en permanence. Est-ce que au sein de l'application, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Je suis sûr que vous êtes persuadé que dans l'absolu, ça peut être quelque chose qui peut aussi ruiner des vies dans notre côté, quand c'est mal exploité et quand il n'y a pas des experts comme vous aussi qui viennent à un moment mettre la main sur les réseaux sociaux comme vous le faites. Quel est le rôle pour vous de cette prévention-là dans les réseaux sociaux?
Alors Sonia.
Alors, donc nous on est sur une version 1 qui est sortie récemment. Donc effectivement sur les versions, sur les évolutions, ce qui est prévu c'est cette prévention-là. Mais là on est en train de travailler sur une conférence justement sur la santé mentale avec des sophrologues, etc. Parce que il faut gérer le timing, mais il faut aussi gérer les haters, tous les messages négatifs qu'on reçoit.
Oui.
Moi, je suis constamment sur les réseaux sociaux, donc je suis en première ligne pour comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, et ils me font le retour aussi de terrain. Donc, on va mettre en place une conférence pour les accompagner avec des ateliers pour leur montrer qu'il faut vraiment sortir des réseaux sociaux. Moi, je fais beaucoup d'événements aussi pour sortir des réseaux sociaux et être dans la réalité tous ensemble. C'est pour ça que Nadia était là aujourd'hui, par exemple. Et pour se voir dans la vraie vie, pas que sur les réseaux, parce que sinon, moi, je traite que des contrats par téléphone, et même pour moi, éthiquement parlant, c'est pas ce que je veux. Ensuite, on a aussi le côté environnemental qui est pas du tout pris en compte aujourd'hui.
Ouais. RSE, pourtant, on en fait beaucoup.
RSE. RSE,
on en parle quand même de plus en plus.
On en parle de plus en plus, mais le côté environnemental n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui dans toutes les agences d'influence. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que sur les évolutions, on pourra dire, à la marque, tu as impacté à hauteur de temps la planète parce que tu as utilisé un reel. L'influenceur, pareil, veux-tu compenser? On trouvera des solutions pour compenser. On remboursera pas la planète, mais on pourra compenser parce qu'on a un réel impact environnemental, avec nos réels. Nos
souris,
etc.
On a Karim avant de terminer. Vas-y, on a aussi Adnan.
Du coup, tu as dit que tu fais du B2B, donc c'est avec entreprises, pardon.
Oui.
Et est-ce que vous allez vous pencher sur le B2C entre consommateurs? Faire du marketing, faire de la stratégie marketing.
Entre consommateurs? Alors nous ce qu'on fait concrètement, c'est, alors B2B, c'est une entreprise, par exemple un logiciel qui a besoin d'un autre expert, un autre professionnel pour promouvoir son produit. Et après ce qu'on fait, par exemple, enfin sur notre première action, notre première la mission première de Use My Feed, c'est vraiment tu es une marque, tu as besoin de connecter avec des influenceurs, par exemple sur Paris, je vais dire Salisano Go, Birth Life, tu vas passer en agence, mais tu peux aussi les retrouver sur une application. Tu peux retrouver Nadjet Meskin, par exemple, qui est en situation de handicap. Donc si tu as une marque pour promouvoir ces produits-là, il y a des personnes en situation de handicap. Tu peux sur l'application géolocaliser, leur proposer des collabs et promouvoir ta marque.
Merci Karim.
C'est une version bêta, on peut appeler. C'est une première version très très bien aboutie parce qu'il y a quand même un système de facturation intégré. C'est la première application qui permet aux influenceurs d'être payés en euros et pas seulement en shampoing. C'est une vraie bêta. Donc les influenceurs peuvent être autonomes.
Pour les infos, Sonia Mandif avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Bon, on va marquer d'une dernière pause assez courte et on reviendra, c'est promis, avec Najet et toute l'équipe de Time Sport.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, un grand bonsoir à Léo Toulonnaise, au Toulonnais, justement, la rade de Toulon. Eh oui, la rade qui nous fait tant plaisir. On voit je me rappelle moi, le Charles de Gaulle. J'ai le porte-avions. Charles de Gaulle. Voilà, mais oui, Charles de Gaulle, t'inquiète
là-bas,
pas.
Au Mourillon, à côté des Mourillons.
Non. Justement, le 98.2, c'est la rade, c'est Toulon, du côté
des Toulon.
Nous écoute. Alors,
côté de la Seine-sur-Mer.
Ok, la Seine-sur-Mer. Magnifique joueur qui jouait à la Seine-sur-Mer de l'Olympique de Marseille. Adnan, dans les années avec Karim Daou, les années 2000, 99, 2000, non pas à Bando. C'était. Aïe. Mais peut-être si vous avez le nom de nous rappeler. Non, pas très très grand de taille.
Tu devrais te plaquer, Adnan, parce que quand il n'a pas la réponse, il regarde directement dans les yeux.
Non, je regarde tiens.
Non, je connais justement. Je connais parce qu'il était très sympa à l'époque avec l'international français Samir Nasri. Non, vraiment. Et moi, non, c'était pas Ziani. C'était un gars de la Seine-sur-Mer. Numéro 10 avec la réserve de Marseille. Il a fait la CFA. Vraiment, il avait fait 2-3 matchs avec, je m'en rappelle, Monténégro, le joueur qui devait justement devenir tel qu'un. Dommage, il n'y a pas le coach Tollet. Qui devait devenir un peu comme le joueur qu'on avait, qui a été champion olympique avec champion de France avec Deschamps en 2010. Voilà, c'était un peu dans la
Marvin
même.
Marvin Martin, non.
Non, laisse tomber. Marvin Martin, il n'est pas marseillais, il n'est pas
suisse aussi. Je me dis.
Allez, ça fait rien. Allez, on va continuer cette émission avec la dernière partie.
Time Sport. La parole des sociaux.
Sonia Bindif avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, accompagnée de toute l'équipe de Time Sport. On revient à vous, Sonia, un peu aussi de donner les infos sur les réseaux sociaux, notamment cette application, on le rappelle, sur iOS et aussi Google Play. C'est bien
Use
ça?
Use My Feed.
Oui, on va le dire?
Use My Feed.
Sur Instagram aussi?
Sur Instagram aussi, UseMyFeedAgency.
Oui, et aussi un site internet.
Un site internet, pareil, ouais, UseMyFeed, j'ai pas fait.
Justement, non.
Tout pareil.
Justement, on peut donner.
UseMyFeed, USE, My. Feed. Utilise mon feed.
Voilà.
Okay. Voilà. En anglais, parce que c'est une start-up.
C'est bien fait. Justement. Allez, on est juste en compagnie ce soir de toute l'équipe de Time Sport, de Sonia et aussi de Najet. Karim, justement, t'entends trop Karim cette fois-ci. On va fermer le micro de Karim et on va écouter Najet. Bonsoir Najet.
Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à Use My Feed.
Oui.
Alors, moi, je vais me présenter rapidement. C'est Najet. MSK sur les réseaux. Je suis mannequin, comédienne et chroniqueuse TV et aussi influenceuse. Je fais partie de l'agence de Sonia.
Oui.
Ça a été la première à m'avoir pris en étant en situation de handicap parce que les agences ne sont pas trop ouvertes au handicap et comme je le dis souvent, c'est le nouveau visage de l'influence parce que vraiment elle ne voit pas de la même manière. Et du coup, moi, j'ai participé au concours de Miss Monde en 2017, où j'ai été élue Miss Smile. J'ai fini troisième. Suite à ça, c'est comme ça que j'ai été connue du grand.